chronique judiciaire avec Maître Julien Bouliane. Pour contacter Maître Bouliane, 542-8111. 542-8111.
Maître Bouliane, bon matin.
Bon matin.
Vous quittez vendredi.
Vendredi.
C'est pas encore le Mont Everest, mais on se rapproche tranquillement.
Effectivement, je fais partie des 7 sommets. On va monter le Mont Elbrouz en Russie, dans le Caucase. C'est le plus haut sommet d'Europe. On fait ça pour la Fondation pour l'enfance et la jeunesse. Donc, on part, moi, Maître Quentin, David Asselin, Jérémy Boivin, ce vendredi, après de longs préparatifs. Donc, on est toujours en campagne de financement. Ceux qui veulent donner là, 100% de ce qu'on ramasse, on le donne directement à la Fondation pour l'enfance et la jeunesse qui vient en aide ici à nos jeunes dans le besoin, dans la région. Donc, si vous allez sur Facebook, au sommet pour la jeunesse ou même au sommetpourlajeunesse.com, on a une page internet, vous pouvez faire des dons en ligne, vous pouvez acheter des maîtres de montagne, donc pour justement, on espère de vendre tous les 5642 mètres de la montagne et toutes les sommes ramassées, comme je le dis, seront remises directement à la Fondation.
Mais là, on parlait hors d'onde parce qu'il y a un article ce matin dans sur TVA Nouvelles sur l'Everest qui connaît des problèmes parce qu'il y a une popularité de ce genre d'excursion-là. Les gens se rendent sur place, veulent monter des montagnes, ouais, veulent se dépasser.
C'est de plus en plus accessible.
On vend de plus en plus de permis et résultat, c'est embouteillé. C'est pas tout le temps du monde qui a de l'expérience. Il y a eu 11 morts sur l'Everest. Vous me disiez que c'est pas la montagne la plus meurtrière.
Non, pas du tout. Pas du tout. Il y a des montagnes qui sont... Là, cette année, effectivement, ça donne l'impression que c'est très, très, très meurtrier. Là, 11 morts, c'est quand même pas banal non plus. Mais généralement, là, il y a pas beaucoup de morts sur l'Everest. L'Elbrouz où on va, on parle de 20 à 40 morts par année en moyenne pour différentes raisons. Sur l'Everest, c'est une ascension très, très long, qui dure tout près de 2 mois. Et on monte à plus de 8800 mètres. Là.
C'est, oh, oui.
Ça prend une acclimatation très, très, très importante. La problématique...
C'est l'altitude d'un avion de ligne.
C'est incroyable. Là, comment vous n'avez pas idée comment c'est difficile. On parle qu'un mètre, une livre ici, c'est 100 livres en haut que vous portez. Le moindre geste, là, vous penchez pour ramasser quelque chose, etc. Tout ça devient, compte tenu de l'altitude, un effort immonde. Marcher, donc franchir 100 mètres, là, ça peut vous prendre des heures. Et le problème, c'est quand ils arrivent à l'île Aristep, ils sont à tout près de 100 mètres du sommet, ils sont presque rendus, mais c'est un endroit qui est très étroit et ça part juste un par un.
Oui.
Un qui monte, puis s'il y en a qui redescendent, il faut que tu laisses passer ceux qui reviennent. Et on parle qu'il y a des attentes de près de 12 heures. Parce que la problématique cette année, c'est que la fenêtre météo, l'Everest, s'il se met à vanter, puis à pas faire beau, puis à rien voir, là, c'est...
Oubliez ça.
Bon, vous restez dans vos tentes, puis c'est pour ça que l'expédition se fait en acclimatation. Ils partent du camp de base, montent au camp 1, redescendent au camp de base, vont monter au camp 2, descendre au camp 1, monter au camp 3, descendre au camp de base, remonter, etc., jusqu'au camp 4, puis finalement faire le sommet. Tout ça prend en moyenne 15 jours à peu près marcher jusqu'au camp de base, puis après ça, en moyenne, un mois et demi d'acclimatation, de monter, descendre, monter, descendre. Et là, quand votre expédition dit « on est prêt, on est acclimaté, mais on a une fenêtre météo », bien, toutes les expéditions, finalement, veulent se garrocher pour passer. Mmh. Et c'est là le problème. Et effectivement, on dit que c'est très accessible, il faut le dire, il faut être très en forme, très préparé, parce que l'altitude, c'est quelque chose qui a des contraintes énormes, ça change complètement votre système. Et passer 8
minutes... Tu as remarqué, il me regarde quand tu dis
ça. Oh, ouais,
hein? Son focus a changé de place.
Et c'est à peu près 100 000 monter là. Ça coûte à peu près 100 000 pour l'expédition avec les Sherpas, les permis, tout le kit. Et c'est quelque chose qui est très éprouvant. Puis quand on appelle le 8000 mètres, la zone de mort, lorsque vous passez le 8000 mètres, il n'y a pas un être humain qui est fait pour rester là. Même, vous ne pouvez pas vous acclimater. Fait que même les Sherpas, il y a un Sherpa qui a battu le record, il est monté pour la 24e fois au sommet de l'Everest. Même lui, il reste quelques minutes puis redescend parce qu'il n'y a personne qui est fait pour rester à cette altitude-là. Et c'est là tout le danger. Lorsqu'ils arrivent passer 8000 mètres et que là, il y a un embouteillage au sommet, puis vous êtes pris pour attendre, puis il fait à peu près moins 60, puis vous n'avez pas d'air, puis là, les bonbonnes d'oxygène commencent à manquer, etc.
Puis ils sont lourds.
Et c'est là que les gens meurent carrément d'épuisement ou du mal des montagnes, mal aigu des montagnes, œdème cérébral, œdème pulmonaire. Donc, effectivement, ça donne l'impression que ces gens-là s'en vont comme à l'abattoir, mais c'est pas ça du tout. Même cette année, on parle... C'est beaucoup, là, mais c'est 10 %. Or que d'autres années, il n'y a pas de mort ou un ou deux morts.
Mais là, la montagne que vous allez escalader, là, les œdèmes et tout ça, ça demeure aussi possible.
Absolument. Et le gros problème de l'Elbrouz, c'est que les Russes sont assez redneck sur l'acclimatation.
Ah ouais?
Donc, il y a beaucoup de gens qui vont sur l'Elbrouz puis qui montent rapidement parce qu'il y a un télésiège qui peut vous amener jusqu'à 3008. Puis après ça, vous faites de l'acclimatation. Vous allez monter à 4100, redescendre à 3008, monter à 4008, descendre. Puis là, il y en a qui prennent une espèce de dameuse que tu peux prendre qui te remonte à 4008 dans le but de faire le sommet à 5642. Et si tu fais ça trop rapidement, exemple en 3 jours, les risques d'avoir des problématiques de santé importantes sont immenses et c'est là qu'il y a beaucoup de morts. Il y a beaucoup de morts également. Il y a un endroit où est-ce qu'on fait de la marche en crampons avec piolet, on est encordé puis il y a des risques de chute. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont là puis que comme il y a des stations de ski alentour, ils arrivent sur place, fait, on pourrait monter le plus haut sommet d'Europe. Ouais. Go, on se loue un peu d'équipement, on engage un guide sur le bras qui, lui, est habitué de faire la montagne puis là, on se dépêche puis on n'est pas habitué. On ne s'est pas entraîné pour, puis on n'a pas fait l'acclimatation. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de morts. Contrairement à l'Everest, tous ceux qui arrivent à l'Everest puis qui ont payé 100 000, on là, s'entend prêts, qu'ils sont prêts, puis qu'il y a une méthodologie derrière tout ça, puis qu'il y a une acclimatation très, très, très importante, parce qu'avec l'altitude, il n'y a pas moyen de tricher. Mm-hmm. Vous avez beau être un marathonien, un ultra-marathonien, si on vous prend puis qu'on vous monte à 5 000 mètres, vous allez mourir.
Non, c'est clair. C'est
bon,
clair.
Il faut qu'il y ait une acclimatation qui se fait. Il y a des techniques là, à la Kylan Jornet qui, lui, il monte tellement rapidement et il redescend tellement rapidement qu'avant que les effets, finalement, de l'altitude attaquent son système, il est déjà redescendu. Okay. Mais ça, oubliez ça, pour le commun des mortels, là, c'est des surhommes, si on veut.
Mais là, vous montez toujours de plus en plus haut. Fait que là, après ça, c'est le Mont K2. Après ça, c'est...
Ben là, pour l'instant, le but, c'est de ramasser de l'argent pour la fondation en ayant des objectifs toujours. On s'est lancé là, sur les 7 sommets. Le fameux 7 sommets, c'est le sommet le plus haut de chacun des continents. Donc là, on a fait le Kilimanjaro. Si on réussit le Mont Elbrus dans les prochaines semaines, on va regarder. Éventuellement, ça pourrait être la Aconcagua, qui est le plus haut sommet hors de l'Himalaya, qui se trouve en Amérique du Sud. Là, on parle de tout près de 7000 mètres, là, 7800 quelques, okay. qui pourrait être notre prochain objectif. Mais comme je le dis, on y va un mont à la fois. Là, notre objectif, c'est l'Elbrus. On part vendredi. Donné généreusement, comme je le dis, 100% des sommes vont directement à nos jeunes ici.
Une fois que les 7 vont être faits, mais après ça, ça va être à l'inverse. On va le plus profond possible dans l'océan.
Oui, puis là, il faut faire le pôle sud puis le pôle nord. Mais... Voilà.
Bon, Chanson, un petit peu de ce qui se passe dans l'actualité judiciaire. Parce qu'il y a quand même beaucoup de sujets qui sont intéressants ce matin. Bon, il y a l'histoire de Lorenz Gagné là, qui revient dans les journaux. Ce gars-là a attaqué un chauffeur d'autobus. Là, il est banni à vie de la STS. Je vais te dire, être chauffeur de la STS, des fois, tu dois rencontrer des papilles aussi. Là.
Effectivement. Et le crime le plus important auquel il faisait face hier, c'était un crime de vol qualifié. Bien qu'il n'y avait pas eu de violence telle qu'elle, monsieur se rend sur place et à ce moment-là mentionne au commis, c'est un hold-up de façon intrinsèque. Puis les commis, c'est la façon de faire. Si quelqu'un rentre dans votre dépanneur, là, c'est pas le temps de mettre votre vie en danger. Là, même s'il semble pas armé pour le moment, il peut avoir une arme dans sa poche. Donc, donner l'argent, c'est ce que les policiers enseignent. Et donc, lui, il est rentré. Il n'a pas menacé. Il n'a pas eu d'autres gestes. Il n'a pas commis de voie de fait. Puis il n'a pas braqué une arme. Mais il avait une main dans sa poche, puis il a dit c'est un hold-up. Le caissier lui a donné ce qu'il y avait dans la caisse. À ce moment-là, c'est un chef de vol qualifié qui ne permet pas l'emprisonnement en collectivité parce que c'est passible de perpétuité. Hier, compte tenu du fait qu'il y avait, c'est quand même quelqu'un des problèmes psychiatriques, il y a même une ordonnance de la Cour supérieure qui l'oblige pour les 3 prochaines années à demeurer à un endroit désigné par l'hôpital de Chicoutimi et à suivre les recommandations de ses médecins traitants. Donc, si on veut, on a une ordonnance qui le force à prendre ses médications puis à rester à l'endroit où est-ce qu'il est. Fait que, de toute façon, il était pour les 3 prochaines années dans une ressource. Donc, on a modulé les chefs d'accusation. On a, si on veut, finalement, un vol qualifié, c'est un voie de fait ou une menace jumelée à un vol ensemble qui fait que c'est une infraction plus grave. On l'a, si on veut, si vous me permettez l'expression, splitté en deux. Il a plaidé coupable à un voie de fait simple et un vol simple, ce qui faisait en sorte que l'ensemble des infractions, les 2 voies de fait contre les chauffeurs d'autobus, il y avait certains bris, il y avait une possession de stupéfiants et ce fameux vol simple avec voie de fait simple. Tout ça permettait un emprisonnement au sein de la collectivité, mais il faut le dire, là, il ne retournait pas rester dans un appartement ou avec un risque de récidive. Il allait demeurer où est-ce qu'il reste présentement, 24 heures sur 24, pour les 6 premiers mois et d'autres couvre-feux par la suite, avec un encadrement, comme je le disais, 24-7, et des personnes sur place qui s'assurent qu'ils prennent sa médication, qu'ils respectent certaines conditions, etc. Donc, tout ça faisant en sorte qu'il y avait une conséquence à ces gestes, parce qu'on n'a pas plaidé la non-responsabilité criminelle, mais aussi, c'est un risque assumable en collectivité, il ne constituait pas un risque de récidive dans le contexte où on l'envoyait.
On se posait la question dans l'histoire des vols à main armée, là. Les gens qui font semblant d'avoir une arme camouflée là, derrière un chandail et un manteau, c'est-tu déjà arrivé que quelqu'un avait une vraie arme puis qu'il la cachait?
La réponse est non.
Dans mes dossiers, pourquoi cacher une arme si on avait une vraie? Mais ça pourrait être. Par contre, le but, c'est que si on est capable de démontrer que vous aviez une arme à feu, à ce moment-là, vous partez qu'un 4 ans minimum.
Oui.
Donc, toute l'importance, si vous pouvez faire en sorte de ne pas la montrer, ça pourrait faire en sorte
ça
que
pourrait vous aider.
Le 4 ans minimum. Mais je dois dire que lorsque des clients ont des armes ou des pistolets à plomb ou des imitations d'armes qui ont l'air assez réelles, généralement, on a la tendance à la montrer pour démontrer le sérieux de la chose.
Oui, c'est ce que je trouvais aussi.
Mais c'est-tu légal pour une personne comme cet homme-là qui va avoir besoin de services comme la STS, de le bannir d'un service public comme celui-là? Est-ce qu'on a le droit de faire ça?
Présentement, ça a été mis dans le cadre de son ordonnance de probation parce qu'il y a dans les ordonnances, c'est des conditions obligatoires de protéger les témoins victimes. Donc, le juge doit obligatoirement, si toi, Martin, t'as été victime d'un voie de fait, à moins que tu lèves la main pour dire « Non, non, je veux pas d'interdit de contact avec lui, c'est mon beau-frère, puis on était dans un party de Noël, puis c'est un événement isolé, j'ai pas de problème avec lui, on s'est reparlé depuis. »
Tu connais bien mon histoire familiale.
Mais si tu veux plus parler à ton beau-frère, d'office, le juge doit mettre des interdits protégeants à ces personnes-là. Et dans ce cas-ci, la Couronne avait parlé avec les chauffeurs et présentement, la STS disait compte tenu de la gravité du geste, pour l'instant, on n'a pas dit que c'était à vie, là, mais là, à l'intérieur de la probation qui lui a été imposée, le juge omis des interdictions de se présenter là dans le but de protéger les personnes qui travaillaient sur place. D'accord. Et les victimes, les deux chauffeurs.
L'autre dossier dont on va entendre parler énormément dans les prochains jours, et on revient sur une histoire triste qui s'est passée à Québec. Une jeune femme enceinte qui s'était fait frapper en traversant le boulevard Laurier, enceinte de 40 semaines. Finalement, la femme meurt, on sauve le bébé. Et on s'aperçoit que le jeune homme qui l'a frappé traînait sur presque 100 mètres dans le terre-plein central, en dessous de la voiture. Le gars venait de faire une crise d'épilepsie et il sortait du bureau du médecin qui lui avait dit de ne plus conduire. Et ce médecin-là est venu témoigner hier.
Effectivement. Situation très particulière, c'est-à-dire que tant la poursuite que la défense s'entendent sur la trame factuelle complète. Il y aurait eu une crise d'épilepsie qui fait en sorte que le jeune cause un accident, frappe cette dame-là et donc il est responsable du décès et le bébé, on lui a sauvé la vie, mais qui a été sorti de force là, par césarienne puis qui avait des fractures au crâne, etc. Donc, il est accusé d'un chef de négligence criminelle ayant causé la mort puis de négligence criminelle ayant causé des lésions. Tout se joue sur est-ce que le médecin l'avait avisé ou non qu'il ne pouvait pas conduire. Parce que si toi, aujourd'hui, d'homme, tu t'en vas puis tu fais une crise d'épilepsie, ben on pourra certainement pas te reprocher si c'est ta première et tu n'avais aucune raison de savoir que tu en ferais une.
Non.
Par contre, si
et
t'es...
même pour les gens qui sont sous contrôle, qui n'ont pas de restrictions sur leur permis de conduire, normalement, c'est le no-fault qui s'applique, il n'y a pas de problème.
Effectivement. Si vous faites un arrêt cardiaque, on va pas vous accuser de négligence criminelle parce que c'est votre faute d'avoir fait un arrêt cardiaque. Par contre, si vous avez une contre-indication, et c'est là tout le débat, le médecin dit, moi, je lui ai dit, avant qu'il parte, tu conduis pas, là, on va se revoir. Le neurologue lui a dit, t'as été suivi depuis des années. Mm-hmm. Il y a eu des périodes où il avait le droit de conduire. Il faut le dire dans l'histoire, là, il était suivi depuis qu'il avait 9 ans. Donc, il y a eu des épisodes à 16-17 ans où pendant 3 mois, le médecin lui disait, bon, tu viens de faire une crise, on va changer ta médication, les 3 prochains mois, tu peux pas conduire. Et il y a eu des périodes où il pouvait conduire. Et là, ce que dit le jeune, dans sa défense, c'est cette fois-là, j'ai été consulté, j'avais pas fait une crise telle quelle, mais j'avais des symptômes qui s'apparentaient à peut-être des faiblesses ou une recrudescence de mes problèmes d'épilepsie, mais le médecin ne m'a jamais dit cette fois-là que je ne pouvais pas conduire. Et le médecin prétend qu'il lui a clairement dit, et malheureusement pour le médecin ou pour la poursuite dans ce dossier-là, c'est que le médecin a détruit ses notes.
Oh! Ouais, et ça, c'est pour ça paraît moins bien.
Et c'est pour ça que l'avocat fait même un arrêt des procédures dans ce dossier-là présentement. Ce que le juge Rousseau aura à trancher, c'est de dire, nous, notre version, on l'a brimée par le fait qu'on a détruit de la preuve qui aurait dû nous être divulguée. Parce que ce que dit mon client, il dit que le médecin lui a jamais dit. Le médecin dit, oui, je lui ai dit, mais je l'avais mis dans mes notes, mais je les ai détruites, mes notes. Et le juge aura à trancher si le fait que le médecin a détruit ses notes et qu'il forcément ne les a pas transmises à la défense dans le cadre de la divulgation de preuves, est-ce que ça fait obstacle au témoignage de ce médecin-là? Ou le juge va tout simplement dire, ce qui risque d'être le cas, c'est tout comme un policier qui vient témoigner, mais quand on lui demande « Oui, avez-vous pris ça dans vos notes? » »« Non, je ne l'ai pas écrit, mais je m'en souviens. » Son témoignage est admissible, mais ça peut attaquer sa crédibilité.
Mm-hmm. Mais sa qualité de professionnel, est-ce que ça vient justement lui donner plus de crédibilité de dire que c'est un médecin ou ça joue pas en tout?
Non. Il y a des médecins qui peuvent être entendus en tant qu'experts. La différence entre un témoin ordinaire puis un témoin expert, c'est que le témoin expert peut donner son opinion. Or que toi, Dom, si tu viens témoigner en cours, on ne veut pas savoir ton opinion, à savoir si tu penses on que c'est à cause de ci. On veut les faits. Donne-nous les faits. Un expert peut donner son opinion, mais dans ce cas-ci, le médecin ne vient pas te témoigner comme expert. Peut-être qu'il y a une partie où on l'a voulu le faire expert en voulant dire est-ce qu'il y avait vraiment des problèmes d'épilepsie, etc. Mais il est vraiment attendu comme témoin qui vient relater, je l'ai avisé qu'il ne pouvait pas conduire. C'est sur les faits. Et donc, je pense que le juge, comme situation, parce qu'un arrêt des procédures, c'est le remède le ultime, si on veut, il pourrait, à mi-chemin, exclure le témoignage du médecin ou tout simplement dire, je vais prendre son témoignage, mais je vais évaluer si ça attache sa crédibilité ou la fiabilité de son témoignage, le fait qu'il a détruit ces notes-là. Et le juge aura finalement à évaluer la version du jeune homme, de l'accusé, qui dit « le médecin ne m'a jamais avisé » versus le médecin qui dit à plusieurs occasions, tant au policier qu'à l'enquête préliminaire qu'au procès, « je l'avais avisé ». Parce qu'effectivement, dans le cas où le médecin l'aurait avisé dans les minutes précédant l'accident, tu ne peux pas conduire. Puis si ce jeune-là fait fi de cet avertissement-là, je pense qu'on rentre dans la négligence criminelle. À l'inverse, même si par le passé, il y avait eu des problèmes épileptiques, si on ne l'a pas avisé cette fois-là, puis que l'écoulement du 3 mois dans le passé était échu, bien, je ne vois pas en quoi on pourrait lui reprocher, malheureusement, d'avoir eu un problème de santé.
Maître Bouliane, merci beaucoup.
Ça me fait plaisir.
Bon voyage, bonne ascension.
Merci beaucoup. Au Sommet pour la jeunesse, sur Facebook et sur .com.
Voilà. Merci. On se reparle quelque part en haut d'une montagne.
Chronique judiciaire avec Maître Julien Bouliane. Pour contacter Maître Bouliane,
542-8111. 542-8111. Le show du matin. On revient dans quelques minutes. 95.7 Kick Saguenay.